Salut! Aujourd'hui, on va parler du plus célèbre des gangsters français, Jacques Mérine. Au départ, rien ne prédestine Jacques Mérine à devenir l'ennemi public numéro 1 en 1979. Il est issu d'une famille aisée, ses parents sont des commerçants dans la broderie de luxe en région parisienne, et il vit dans un milieu catholique croyant. Mais l'enfant est plutôt turbulent à l'école, il est renvoyé de plusieurs établissements, il fuit l'école et la vie rangée, et adolescent, il commence à fréquenter des mauvais garçons dans le quartier de Pigalle à Paris. Dans ce haut lieu de la prostitution, le jeune homme se taille rapidement une réputation de petit caïd et surtout de bagarreur. En 1957, Mérine a 20 ans. Il s'engage comme volontaire dans la guerre d'Algérie. Apparemment, c'est là qu'il a pris goût au maniement des armes, à l'action violente. Après 2 ans de service, l'homme est transformé. Il dit avoir fait du crime un métier. Il tente par 2 fois de faire d'autres choses, en travaillant chez un architecte, en ouvrant des restaurants, mais son goût de l'argent et du risque, surtout, reprend toujours le dessus. Jacques Mérine est une première fois arrêté pour port illégal d'armes en 1961, puis il est condamné à 18 mois de prison pour avoir tenté de braquer une banque. Il sera ensuite plusieurs fois condamné, mais son attirance pour une vie hors norme est plus forte que tout. À Genève, en Suisse, il dévalise une bijouterie. À Chamonix, il cambriole un hôtel. Puis, en 69, il s'envole pour le Canada. Là-bas, avec sa compagne, ils enlèvent un milliardaire canadien pour obtenir une rançon. Accusé de meurtre d'une patronne d'un hôtel, la police canadienne l'arrête devant la presse, et il sera finalement innocenté pour ce meurtre, mais Mérine gardera de cette fausse accusation un sentiment profond d'injustice et une colère vis-à-vis de la police et de la société. Bon, il est finalement condamné à 10 ans de prison pour l'enlèvement du milliardaire canadien, et 3 ans plus tard, il se vengera en s'évadant de manière assez spectaculaire de la prison avec sa compagne. Et puis en 72, Mérine est donc en cavale à travers les États-Unis. Il va jusqu'au Venezuela où il poursuit ses braquages. Il veut toujours montrer qu'il est le plus grand des gangsters. En 73, il rentre en France et là, il va réaliser 3 hold-up dans des banques en moins de 6 semaines. Il ne rencontre aucune difficulté, mais l'entrée en scène du commissaire Broussard va pourtant tout changer. Le commissaire Broussard, c'est un bon professionnel, assez sympathique, qui communique bien. Comme Mérine, il sait utiliser les médias. Le gangster voit en lui un adversaire à sa mesure. Le commissaire finit par arrêter plusieurs complices de Mérine, ce qui lui permet de localiser l'endroit où il se cache dans le 13e arrondissement de Paris. Donc le 27 septembre 1973, Broussard et Mérine se retrouvent face à face pour la première fois. Broussard, qui veut Mérine vivant, négocie avec le gangster. On raconte que Mérine était tellement impressionné par le sang-froid du policier qu'il lui a offert un cigare et du champagne. Et puis Mérine retourne en prison pendant 4 ans. Le 3 mai 1977, son procès commence. Il fait la une de la presse. Mérine est un gangster charismatique. Nombreux sont ceux qui veulent assister à son procès, le voir pour de vrai. Et pour Mérine, l'objectif est clair, il veut détourner l'attention des faits qui lui sont reprochés, alors il va créer un scandale. Au bout de 3 jours d'audience, il va montrer les clés de ses menottes en disant « Voilà ce qu'on peut acheter en prison pour 3000 francs ». Et l'assistante est complètement médusée. Avant la fin du procès, il lance un défi au commissaire Broussard. Il lui dit « Je me donne 2-3 ans maximum pour m'évader et on se retrouvera ». Et le premier qui tirera aura raison. Condamné à 20 ans de prison, Mérine est obsédé par l'idée de s'évader. Il est incarcéré dans le quartier de la haute sécurité qu'on appelle QHS. Et là-bas, il est surveillé jour et nuit. Cette incarcération en QHS est, selon lui, l'expérience la plus douloureuse de sa vie. Il y a ressenti beaucoup d'humiliation et de haine. Il a vraiment tout fait pour en sortir. Et bien sûr, il a réussi en bénéficiant de la complicité d'autres détenus, mais aussi du personnel, parce que Mérine, c'est aussi quelqu'un qui savait amadouer et corrompre. Il va monter un plan d'évasion. Il va solliciter son avocat pour une entrevue. Et pendant ce temps, François Besse, un autre détenu, balance du gaz lacrymogène sur un des deux gardiens qui le surveille. L'autre gardien se précipite. Mérine en profite pour récupérer dans le faux plafond du parloir des armes et une corde sous les yeux de son avocat. Mérine et Besse vont ensuite se déguiser en gardiens. Ils partent en simulant l'escorte d'un troisième détenu. Mais la cour de prison est en travaux depuis plusieurs semaines, donc l'échelle de chantier leur permet d'escalader le dernier mur d'enceinte. L'alerte est donnée, c'est la fusillade. Le troisième détenu est tué. Mérine et Besse s'échappent. Une question demeure sans réponse. Comment Mérine a-t-il pu se procurer des cordes et des armes cachées dans le faux plafond? Et Mérine, lui, a donné sa réponse. Il a été aidé, tout simplement, par les gardiens de nuit. L'évasion de Mérine, vous vous en doutez, elle a fait un vrai scandale. Tout est mis en œuvre pour retrouver l'homme. Et, bien sûr, il reste introuvable. À partir de ce moment, il va devenir l'homme aux mille visages. Mérine est en fait installé à Pigalle et il veut continuer de montrer qu'il est le maître. Il veut ridiculiser la police pour tout ce qu'il a souffert en prison. Le 28 mai 1978, avec son ami François Besse, il braque le casino de Deauville. Et le gangster utilise la presse. Paris Match, Libération, plusieurs journalistes l'interviewent. Il se met en scène, il se fait photographier avec son arme. Et il envoie lui-même ses photos qui feront la une des journaux. À chaque fois, il demande au ministre de la Justice d'abolir les QHS dans les prisons. Et il se montre violent, menaçant envers ceux qu'il traque. Pour la police, c'est le choc, évidemment. L'homme que les policiers traquent inlassablement les nargue, d'autant plus que la presse fabrique de ce malfaiteur un héros, un espèce de Robin des Bois, ce qu'il est loin d'être. Un des chefs de la police décide alors d'utiliser lui aussi la presse. Donc un ancien policier qui s'appelle Jacques Tillier, journaliste dans le journal Minute, est complice. Il rencontre Mérine pour une fausse interview. Malheureusement, la police perd la trace de Mérine qui séquestre le journaliste. Pour se venger, il torture le journaliste et le laisse pour mort dans une grotte aux environs de Paris. Sans oublier de faire des photos, bien sûr, qu'il envoie au journal. L'ennemi public numéro 1 devient une obsession d'État. Après 18 mois de cavale, il est retrouvé par la police. Le 2 novembre 1979, porte de Clignancourt à Paris, Mérine n'a aucune chance. Il quitte son domicile à bord de sa voiture avec sa dernière compagne et il est abattu au volant de sa voiture de 18 balles dans le corps par les policiers. Le personnage de Mérine aujourd'hui fascine toujours. De nombreux films ou livres s'inspirent de sa vie. Vous connaissez peut-être le film avec Vincent Cassel d'ailleurs. Moi, je pense, mais c'est très personnel, attention. Je ne suis pas particulièrement fascinée par ce genre de personnage. Je crois qu'il y a d'autres personnes à admirer que des hommes comme Pablo Escobar ou Jacques Mérine, qui restent, il ne faut pas l'oublier, des criminels. Mérine a en tout cas réussi ce qu'il voulait. Il est devenu un mythe au-delà de sa propre existence. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.